Paddy Chasse, brave monde, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous sommes aujourd'hui dans Toulouse, période de canicule, mais dans ce havre de paix et de culture qu'est le 60 rue d'Assali, siège de Radio Occitanie. Alors nous allons faire une émission un peu particulière puisque nous allons aujourd'hui vous lire des poèmes et des œuvres de poètes palestiniens et de poètes israéliens. Au préalable, je voudrais faire une annonce. Nous avons reçu beaucoup de livres et nous rendrons compte de ces livres ici, bien entendu, à ce micro à partir du mois de septembre. D'ores et déjà, je vous invite à visiter notre site. Les poètes, tout attaché, sans accent. Les poètes, un point, site. Les poètes, point, site. Nous avons une rubrique avec parution, et vous verrez là toutes les parutions des livres de poésie qui sont d'actualité. Et vous rendez compte aussi que, contrairement aux idées reçues, la poésie est bien publié dans notre pays. Il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'œuvres et beaucoup d'œuvres de très bonne qualité. Alors, avant d'entamer le thème de la semaine sur ces poètes palestiniens et ces poètes israéliens ou druzes, je voudrais faire une seule annonce. Une annonce qui concerne notre ami Joël Vernet. Alors Joël Vernet, j'étais fou de joie lorsque j'ai appris qu'il avait eu le prix Roberto Ganzo, qui est un prix de 10 000 euros pour son œuvre. Et vraiment, de tous les poètes actuellement reconnus ici en France, celui qui, à mon sens, devait avoir ce prix, c'était bien Joël Vernet. Joël Vernet, nous en avons parlé récemment pour la publication d'un de ses ouvrages que vous retrouverez sur notre site lespoètes.site, journal d'un contemplateur qui avait paru en 2023. Et cette année, il y a déjà, donc en librairie, depuis quelque temps, aux éditions Fata Morgana, excellentes éditions Fata Morgana, c'est en vente donc depuis le mois de mars 2025, il y a de Joël Vernet, Les copeaux du dehors. Alors en septembre, nous allons, avec Joël Vernet, nous allons parler de cette magnifique publication qui m'a beaucoup ému, beaucoup interpellé, beaucoup sollicité dans ma réflexion, dans toute l'intelligence que l'on peut développer chaque fois que l'on lit Joël Vernet. Et d'ores et déjà, je voulais simplement donc faire cette annonce et vous lire un petit fragment. Alors, l'annonce, de quoi s'agit-il ? Joël Vernet, copeaux du dehors. Quelques larmes sur les joues d'une vieille femme, la lumière argentée qui teinte dans les arbres à cette seconde où un éclat m'apporte tout. Je n'ai plus de paroles à proférer. Je peux, et c'est enfin, me taire. Je puise l'encre dans le dernier silence. Désormais, le dehors est un soleil écrivant tous les livres à ma place. Alors vous avez compris en lisant ces lignes extraites donc de Copeaux du dehors de Joël Vernet, ici, il s'agit là d'une œuvre méditative. Il continue ce journal d'un contemplateur, il n'a jamais fait que cela, peut-être contempler le monde, mais contempler le monde et dire le monde, c'est bien entendu nous donner ce regard, le regard du poète sur le monde. Et pendant l'errance, la contemplation agit comme un rabot, des copeaux. Ce sont ces fragments de l'esprit enlevés au dehors, le dehors qui est très important chez Joël Vernet. Ce n'est pas un poète éthéré, il ne situe sa poésie, son œuvre d'écrivain, son œuvre créatrice ne naît que de la réalité. Et cette réalité, c'est celle du dehors. Et donc, Ces fragments, ils se sont accumulés au fil de 3 années de flânerie dans les paysages hivernaux des Balkans. Vous rendez compte, il est allé passer l'hiver dans les Balkans. Hein? Plein air et vitesse. Une écriture qui retient ce que les yeux voient. Et il parle beaucoup de ça d'ailleurs dans ce livre, Copeaux du dehors, de ce que la vie, c'est le regard, c'est ce qu'on voit. Et à partir du moment où on ne voit plus rien, il n'y a plus de vie. Des phrases de lumière tirées de l'ombre, de l'existence et de ses clameurs. Face à l'envol des oiseaux, la musique de l'herbe ou les humeurs de la mer, Joël Vernet devient chevreuil ou hirondelle. Il disparaît dans l'horizon qu'il toise. Taillé pour n'être plus que l'essentiel, ces fragments des copeaux du dehors célèbrent la symphonie de l'instant où, dans une danse fugace, la vie se consume. Chaque rencontre, chaque regard, chaque remous est une réminiscence que le langage immobilise. Alors, c'est cette immobilité du langage que cherche, bien entendu, Joël Vernet. Joël Vernet, d'ailleurs, qui se garde bien. Hein. C'est pas parce qu'il immobilise un petit peu la langue, donc il essaie d'immobiliser le temps. Il ne croit pas à l'éternité. Il ne croit pas à l'éternité parce qu'il est toujours dans ce dehors. Et ce dehors, c'est le réel. Et le réel, il sait que rien n'est éternel. Alors, Joël Vernet, lui, il est né en Margeride, c'est un petit village, aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère. Et dès les années 75, hein, il entreprend plusieurs voyages. Hein, alors là, c'est le voyageur absolu, hein, qui le conduiront aux quatre coins du monde. Au fil de nombreux ouvrages publiés, il développe un style singulier, donc, entre la poésie et le journal de voyage. Joël Vernet a vécu 2 ans à Alep, en Syrie, avant que, évidemment, il y ait eu cette catastrophe. Et il vit depuis plus de 20 ans dans un tout petit village, non pour s'éloigner du monde, justement, hein, mais au contraire, pour en être plus proche, pour saisir mieux, justement, ce dehors, ce réel. Et en 2021, il remportait le prix de poésie Hérédia de l'Académie française pour « L'oubli est une tache dans le ciel », qui est un recueil en prose publié aux éditions Fata Morgana, et puis récemment donc ce magnifique prix de 10 000 euros, hein, le prix Roberto Ganzo, 1000 fois mérité, Joël Vernet. Alors Joël Vernet, nous ferons plusieurs émissions avec lui en septembre. Et il va inaugurer le thème d'aujourd'hui dans ses copeaux du dehors. Vous allez voir, je vais lire un extrait donc de ses copeaux du dehors. D'étranges colporteurs vêtus de noir, arpentent les chemins, nous annoncent bruyamment les mauvaises nouvelles, les pluies torrentielles, les neiges imprévues, les naissances surprenantes, tout autant que les morts. Agitant des bâtons pour nous aider à comprendre, ils nous pourchassent jusque dans les plus petits recoins où gronde le silence. Celui-ci n'aime aucune nouvelle, bonne ou mauvaise. Le silence bâtit un mur épais entre les chahuteurs et nous. Lorsque nous parviennent leurs voix tonitruantes, les clameurs des pages de journaux tachées de sang, nous prenons la fuite, coupons court à toute conversation. Certaines conversations sont pires que des coups de poignard, des empoisonnements. Il fut un temps pas si lointain où l'on vous imposait de prendre le train pour une destination inconnue. On séparait les femmes et les enfants. On entassait les vieillards. Cela, au nom d'un règlement à l'enseigne du droit et de la justice. La police, vous enlevez les clés de votre propre maison et des badauds, vous regardez monter dans les wagons avec une joie évidente, applaudissant ses prouesses funestes, félicitant la police d'être aussi efficace. La déraison tissait sa toile, dans laquelle tombaient des millions d'innocents, comme un peuple de mouches. dans le poème, doit brûler l'essentiel. Sinon, pourquoi lâcher des phrases sur les pages des livres ? Le peuple des innocents, dont chaque syllabe va être l'écho, chemine en plein jour et en pleine nuit dans cette mémoire que nous lègue l'histoire. Un enfant se jette d'un pont, un vieillard se pend à une poutre, une femme sombre dans la folie s'enfuit à travers la campagne, hurlant son épouvante. À l'aube, on voit des tas de cendres encore fumantes, des maisons saccagées, des chiens qui rôdent autour des fermes. Les badauds sont rentrés chez eux en riant, et toi, aujourd'hui, des années après, tu recherches la beauté des fleurs, le parfum des lilas, celui des genêts, des vieilles étables, des bergeries anciennes. La honte et le mensonge se sont dissous dans la grande machine du temps, et la poussière de l'horreur a glissé sous le tapis. Les badauds sont toujours là, aussi éternels que l'infini. Tu les regardes passer, t'étends les mamelles de la perversité et ne penses plus à rien. Tu n'entends plus que la rumeur des catastrophes anciennes que l'on a remisées dans l'oubli. La rumeur s'en est allée comme une barque derrière un rempart de roseaux. Elle tangue un peu. C'est toujours le mal dans un autre siècle, puis disparaît. Mes yeux la cherchent en vain. Tant de douleurs ne devraient pas nous quitter. La barque est un son de flûte à travers les années, une cheminée de cendres. Voilà, magnifique, magnifique prose donc de Jules Verne, cette prose poétique dont il a la maîtrise, le secret et certainement la singularité. Je ne pense pas qu'il soit égalé actuellement. Jules Verne, donc cet extrait de Copeaux du dehors qui fait allusion bien entendu à la Shoah et à notre facilité peut-être aussi d'oublier. Et il dit avec juste titre qu'il ne faut pas oublier. Alors il ne faut rien oublier. Et il ne faut pas non plus oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Et je vous conseille vivement la lecture d'un livre qui s'appelle « 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime », qui est un livre à l'initiative de Guy Bensoussan et sous la direction de Sarah Fenberg et de David Reinmark. C'est aux éditions David Reinmark. Édition, donc, dans la collection Descartes et compagnie, un livre, un nom, Mila Cohen. Donc, le 7 octobre, alors, ce livre vous coûtera 20 euros. Il y a une contribution très grande, hein, ça va de Gérard Larcher, hein, président du Sénat, à Élie Barnavi, Georges Bensoussan, Guy Bensoussan, Béatrice Verdi, Élie Chouraki, Éric Ciotti, Julien Drey, Elisabeth de Fontenay, je ne peux pas les citer tous, Marc Nobel, Nick Nobeksi, Barbara Lefebvre, Bernard-Henri Lévy, Nathalie Magère, Éric Magie, Joël Mergui, Jean-Claude Milner, Jean-Jacques Moscovitch, Éric Nolot, Emmanuel Navon, Michel Onfray, Sylvain Tesson, voilà, pour ne citer peut-être que, bon, au hasard, mais je vais vous lire de ce livre qui est excellent, excellent. Serge Carcel, par exemple, le président des fils et filles des déportés juifs de France, bien sûr, qui fait un article magnifique aussi. Mais je vais vous lire un article d'un Toulousain dans cette publication. Il s'agit d'un de nos confrères, puisque c'est un homme de radio, il s'agit de Robert Redeker. Robert Redeker, donc notre confrère de Radio Colavive, hein, qui est la radio de la communauté juive donc de Toulouse, puisque Robert Redeker a une émission hebdomadaire. Il réalise une émission hebdomadaire à Radio Colavive qui s'appelle l'Entretien Infini, que nous saluons ici. Je rappelle que nous avons été pendant plus de 30 ans en relation et que j'ai eu le plaisir également de faire des émissions aussi à Radio Colavive avec Monique Elise Cohen. Et d'ailleurs, nous avons passé, je pense, une rétrospective de ces émissions dans une de nos émissions que vous trouverez certainement encore sur le site lespoètes.site. Alors, je vais vous lire cette contribution de Robert Redeker, notre philosophe toulousain et confrère. Alors, il dédie cet article à Claude Lanzmann, en amitié posthume, prolongeant l'amitié entume. L'Europe moderne, nous dit Robert Redeker, suivant la ligne des éléments idéologiques repérés par Jean-Claude Milner dans Les penchants criminels de l'Europe démocratique, c'est le titre de son livre, ne veut pas penser le 7 octobre. Elle aimerait bien pouvoir le ranger parmi les incidents de conflit dont l'actualité est riche depuis les débuts de l'humanité. Elle aimerait bien le banaliser, le faire passer pour un drame comme les autres. Sa rhétorique use souvent de la mise en balance avec d'autres drames, ceux de Gaza, engendré par la réplique israélienne au 7 octobre, en masquant la disproportion entre eux, pour réussir le tour de passe-passe de cette banalisation. Qu'espère-t-elle ? Un effacement du 7 octobre ? Son enfouissement ? C'est qu'il contredit crûment de nombreuses croyances humanitaristes et iréniques, imbibant nos sociétés de leur coloration rose-bonbon. L'Europe veut fermer les yeux d'une cécité volontaire, comme trois décennies durant, elle les ferma au souvenir de la Shoah. Remémorez-vous cette chronique aussi de Joël Vernet que je viens de lire. Pourtant, tous les ingrédients des crimes de la Shoah, de ceux qui en instaurent la spécificité, son unicité, se sont consacrés en ce 7 octobre 2023. La dissymétrie d'échelle entre le 7 octobre et la Shoah ne doit pas occulter leur symétrie des sens. Éclairons ce rapprochement en battant le rappel de la philosophie leibnizienne de la monade. Substance simple, chaque monade est chez Leibniz beaucoup plus qu'elle-même. Elle est le miroir de l'univers entier, tout en mélangé. Le 7 octobre, pour limité qu'il soit, est le miroir d'un événement plus vaste, la Shoah. Autrement dit, il est bien plus qu'un post-scriptum à celle-ci. Ce n'est pas un hasard si j'en parle au présent. Il est et non au passé, comme je le ferai de n'importe quel événement historique. Le 7 octobre, en effet, est un avant et un après la Shoah. Le film de Claude Lanzmann, Shoah, débute par l'expression latinée in illo tempore. Traduisons, en ce temps-là, ce temps qui peut être de n'importe quand. En reprenant ce syntagme, Lanzmann n'indique pas une datation historique. Ce ne sont jamais des livres d'histoire qui commencent par « en ce temps-là », mais toujours des œuvres littéraires. Par ce truchement, Lanzmann envoie un message. La Shoah, à cause de sa monstrueuse spécificité, qui se rencontre à échelle moins industrielle à d'autres moments, d'où ma comparaison avec la monade, se déroule dans un temps suspendu au-dessus du temps. Elle déploie son indicible horreur, non seulement dans les années historiques 1940-1944, mais en tous les temps, dans une sorte de surtemporalité qui annule la structure successive, rassurante du temps, faisant en sorte que passé, futur et présent peuvent s'interchanger. Ainsi, le 7 octobre porte en lui rétroactivement le germe d'Auschwitz. Il n'en est pas que le rappel, il n'en est pas que la réplique au sens sismographique de ce mot. Il en est à la semblance des pogroms d'avant le nazisme, le germe. La Shoah, dont ce 7 octobre est un germe et une réplique, un avant et un après, court au-delà du crime contre l'humanité, elle est le crime absolu. Qu'est-ce que le crime absolu ? D'abord, le crime incomparable, spécifique, indicible dans sa réalité concrète, et surtout, le crime contre l'humanité, quand il vise le peuple porteur de la Bible, le peuple de Moïse et d'Isaïe, d'Abraham et de Jérémie, le peuple qui a donné le jour à Jésus et à Marie. Le crime absolu est le redoublement du crime contre l'humanité par le crime contre la Bible. Robert Redeker. Alors, notre ami Abdelatif Lahbi, et je vous invite à voir les dernières émissions que nous avons faites sur l'œuvre de Abdelatif Lahbi, qui est en ligne donc sur notre site, lespoètes.site. Abdelatif Lahbi, qui a été récompensé par l'Académie des Jeux Floraux il y a 2 ans, qui a eu ce grand prix de poésie ici, eh bien, il a traduit les poètes palestiniens, donc de l'arabe. Et je vais vous lire. Alors, il a également réalisé une anthologie, donc de la poésie gazaoui, que je vous invite également à vous procurer, et dont je reparlerai dès le mois de septembre. Mais aujourd'hui, je vais mettre le projecteur sur 2 œuvres particulières. D'abord, l'œuvre d'une femme, Jumana Mustapha. Jumana Mustapha, donc, c'est qui publie Aux Hommes sans épaules, des éditions Les Hommes sans épaules, excellentes éditions, hein, que je vous invite évidemment à voir le catalogue. Hein. C'est encore un éditeur qui fait beaucoup pour la poésie contemporaine, que nous saluons. Alors, Jumana Mustapha fait paraître donc chez cet éditeur Les Hommes sans épaules, Griffes. Ce sont des poèmes traduits de l'arabe, donc de la Palestine, par Abdelatif Lahbi, comme je disais, c'est une édition bilingue et une préface de Christophe Dauphin. Alors, cette préface en définitive n'est pas très longue, je vais vous la lire. Alors, on va quand même dire 2 mots de Jumana Mustapha. Alors, que je ne sais pas s'il le reprend, je vais quand même le lire. Jumana Mustapha, c'est l'un des phares de la poésie palestinienne d'aujourd'hui et de cette nouvelle génération dont le destin national est moins la ligne commune que ne l'est le journal de bord intime du poète et son vécu en prise directe avec le monde et la réalité immédiate. Alors, voyez tout de suite ce que je viens de lire. C'est exactement la démarche de Joël Vernet. Et vous voyez ce que quand même les poètes, entre eux, ont de quelque chose de quand même extraordinairement semblable, universel. Le poème éponyme Griffes, qui donne son titre à ce livre, est le manifeste d'une poète libre et insoumise. Son regard s'est débusqué le réel et le merveilleux dans les faits les plus infimes. Alors ça, on va le retrouver, bien entendu, par exemple, chez beaucoup de poètes, dont bien entendu, Joël Vernet, le plus infime, le chant d'un oiseau, va chez Joël Vernet, va enchanter toute une journée entière, sans rien lui faire oublier quand même des problèmes du réel, les problèmes de notre monde. Alors, Jumana Mustapha, elle possède un don résolument intimiste et personnel qui ne doit rien à personne, ainsi qu'un éventail de registres qui vont de la désillusion à l'exaltation amoureuse en passant par la révolte et l'ironie. Volontiers désinvolte, elle n'est jamais cynique. Au-delà des thématiques incontournables comme la condition de la femme, la mort, l'exil et le pays perdu. La poésie de Jumana Mustapha est aussi un hymne à l'amour, à la liberté et à la vie. Alors, Griffes, c'est son premier livre qui paraît en français et il nous faut donc remercier Abdelatif Lahabi pour cette publication. Jumana Mustapha, elle est née en 1977, je dis ça pour que vous situez à peu près la génération, elle est née au Koweït, où ses parents se sont exilés après avoir quitté la Palestine et avant de rejoindre la Jordanie. Elle est diplômée en droit, elle vit entre la Jordanie et l'Égypte, et nous lui devons 100 livres de poèmes et un roman. Alors elle a créé à Amman le festival Poetry in Sirsar. Elle est journaliste et elle milite pour les droits de l'homme et la liberté d'opinion, et elle se bat pour la démocratie en Jordanie. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Alors, je vais lire des extraits de ce livre, étant précisé que ce livre est en édition bilingue, et donc, pour ceux qui lisent l'arabe, bien entendu, vous aurez le plaisir d'avoir également la version originale. La liberté m'a murmuré que j'étais sa fille préférée. Vois-tu, mère, ils ont de petites cornes et des queues sous leurs pantalons. Ils parlent dans leur barbe une langue maudite et font circuler entre eux des talismans comme des encensoirs. Cependant, j'ai pu survivre et sauver ton visage. J'écris avec mes doigts sur la buée des vitres, dans l'espoir que quelqu'un soufflera sur la face du poème et que celui-ci apparaisse. J'avoue que le désespoir a toujours été le premier arrivant, le premier à renouer avec la sérénité, le premier à se lever le matin et le dernier à se coucher. J'avoue que l'ennui, depuis que je l'ai connu, a toujours tenu à changer de couvre-chef. Je reconnais à l'absurde d'avoir réparé toutes les horloges interdites. Je reconnais à la dureté sa patience. Je reconnais à la peur sa clémence, car elle ne se manifeste pas d'une seule traite. Je reconnais à la tristesse son héroïsme, car elle ne dispute rien à personne. Je reconnais à l'orgueil de se muer en joie quand je le contrarie et qu'il reste à m'attendre à chaque fois que je le quitte. Je reconnais à la défaite de bien choisir son moment, à la solitude de sa virginité, au désastre ses nouveautés, à la distraction sa célérité, au questionnement leur droit à l'existence. Je reconnais à la séparation qu'elle n'arrive qu'en apportant son bagage de commencement. Je reconnais aux chaînes des intentions louables et à l'injustice de n'être qu'un simple moyen. Je reconnais au vide sa propreté, au monde sa singularité, car il ne se répète pas. Mes souffrances, où se reflètent-elles? Sous forme de fête et au profit de qui? Je n'ai pas réussi à les classer selon l'ordre alphabétique, de la plus grande à la plus petite, et de la plus ancienne à la plus récente. Toutes mes douleurs ont le même nom, la même dimension, et c'est maintenant qu'elles lancinent. Baisse-toi, ô géant, laisse-moi t'embrasser. Comme cette vie est généreuse, elle ne m'a pas rappelé mes erreurs. Elle m'a envoyé un manteau, un plat, des chaussures. Elle m'a envoyé la moitié d'un amoureux. Je m'assois dans les rangs du fond, applaudis au meilleur et au pire. Je baisse la tête pour que les beautés qui passent ne soient pas indisposées par mon silence. Je me mets dans la file. J'attends que le geôlier me verse ma part de consentement que j'avale goulûment en silence avec toute ma reconnaissance. Pour une fois, ô Dieu, aide-moi en amour. Dès lors, je ne me vanterai pas de mon athéisme. Je ferai même la prière si tu me le demandes. Nous sommes tes enfants impies, toujours esselés dans l'amour, privés de miracles. Nous sommes tes enfants impies. Nous t'implorons en cachette, à l'insu des croyants. Je vais aller un peu plus loin. Je me suis habitué à n'être vu de personne. Autre partie de ce livre. Réveille-toi au bonheur, nous sommes arrivés. Je n'insulte pas les capitales, leur trépidation, leur fumée, l'armée de leur déséquilibré. Je ne cogne pas son ciment trafiqué et ne verse pas de larmes sur les champs, les grand-mères analphabètes qu'ont fait de nous les êtres durs et cupides que nous sommes. Votre beauté fantomatique s'ennuie tamment. La dureté quand elle parcourt vos rues comme une chienne boiteuse. Dès l'aube, les cris de notre voisine et au matin la pâleur de ses enfants, vos fous, vos prostituées, vos orphelins se détachent de vous comme des feuilles mortes. Les crimes avec lesquels vous vous coupez les ongles, les camions ordures qui ramassent nos existences et les jettent au loin. Et le plus beau en vous, le gigantesque cimetière où vous dormez depuis 40 ans. À cette maison, il manque un chien, un loup qui pourrit la vie au chien, un agneau qui donne un but à la vie de ces deux-là, et un berger qui se croit au-dessus de la mêlée. À cette maison, il manque une poule, un coq qu'il aime, et 10 cafards se cachant derrière le divan. À cette maison, il manque un arbre, un caroubier si possible, sur lequel viendra se poser un hibou blanc. Le hibou ululera, le caroubier croira qu'il s'agit d'un poème et en pleurera. Nous n'avons besoin ni de papillons, ni de flûtes, ni d'une source miroitante. Nous voulons ingurgiter un autre verre pour vivre une heure de plus. Voilà, vous avez vu cette poésie, beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup d'appel à la réalité, beaucoup d'amour. Et on sent, bien entendu, cette fraternité, cet appel à la fraternité. Elle n'est pas ce Koraïch a de plus beau. Alors, Koraïch, c'est le nom d'une des plus grandes tribus de l'Arabie au temps du prophète Mohammed, et lui-même, Koraïch, il en faisait partie. Alors, griffe, bien sûr, donc le poème éponyme. Donc du recueil éponyme, griffe. En pleine rue, je vends aux passantes des griffes. Je les étale, les lime, les astique et donne de la voix. je vends aux passantes des griffes. Une griffe pour tuer. Une griffe pour violer. Une griffe pour blesser. Une griffe pour découdre les blessures. Une griffe pour se donner des gifles au-dessus des tombeaux des aimés. Que celle qui se sent plus malheureuse dans son métier se présente et dise « Me voici !» Que celle qui estime être plus fidèle à son exercice se présente et dise « Me voici !» Que celle qui conçoit la jalousie, le doute, la haine, l'idée du suicide se présente et dise « Me voici !» Je lui vendrai alors une griffe. Et me voilà, vendant des griffes. Je les essaie sur mes cuisses, mes bras, mes chevilles, alors que celle qui ressentirait la moitié de ma douleur se présente et dise « Me voici !» Qu'importe, si on me montre du doigt, que mon nom soit fustigé, que je reçoive des gifles, que mon cœur soit lacéré. « Mesdemoiselles, je vends des griffes !» Je les vends aux plus ravissantes d'entre vous. À moi, venez, accourez. N'avez-vous pas un jour tué votre aimé? Ouvert une vieille blessure? Ne vous êtes-vous pas donné des gifles au-dessus d'une tombe fraîchement creusée? J'ai ici une griffe pour tuer, une griffe pour violer, une griffe pour blesser, une griffe pour découdre les blessures, une griffe pour se donner des gifles sur les tombeaux des aimés. Griffe, griffe. Magnifique recueil donc de Jumana Mustapha, Griffe, avec une préface de Christophe Dauphin que je n'ai pas eu le temps de vous lire, mais qui très bien faite, vraiment magnifique. Donc, à lire sans attendre, c'est aux éditions Les Hommes sans épaules, et cela vous coûtera 15 euros. Et puis, le deuxième poète palestinien dont je vais vous parler, mais je vais y revenir, j'y reviendrai. Je vais juste présenter, et nous reviendrons au cours des prochaines émissions, nous reviendrons sur, bien entendu, sur Ghassan Zatk. Zatktane, Z-A-Q-T-A-N-E, Ghassan Zatktane. Les barbares, mes intimes, ce sont toujours des poèmes traduits de l'arabe Palestine par Abdelatif Lahabi, et c'est aux éditions Bacchanal, c'est hors-série. C'est Bacchanal, c'est la revue de la maison de la poésie Rhône-Alpes que nous saluons. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site de cette maison de la poésie Rhône-Alpes, vous voir également leur publication. Alors, puisque le temps nous cerne de si près, que je voudrais aussi quand même pouvoir évoquer des figures des autres poètes palestiniens, disons que Ghassan Zatktane, lui, il est né en 1954, donc c'est une génération avant celle de Jumana Mustapha. Il est né à Beit Jala, c'était près de Bethléem. Bethléem, j'y suis allé d'ailleurs là. Où sa famille s'était réfugiée en 1948. Alors, Ghassan Zatktane, il va vivre au camp de Dal Karama. Ensuite, il va vivre en Jordanie, il va vivre au Liban, il va vivre au Yémen du Sud, en Syrie et en Tunisie. Il va rentrer en Palestine en 1994, et là, il va animer plusieurs tribunes littéraires et culturelles. Et Ghassan Zatktane, c'est aussi l'un des fondateurs de la maison de la poésie à Ramallah. Je me demande ce qu'elle est devenue, bien entendu, cette maison de la poésie à Ramallah, où nous sommes allés avec Michel Icar Elial. Alors, son œuvre abondante a fait de Ghassan Gzat Khtan une figure marquante de la poésie palestinienne, donc de cette génération, sa génération, génération des années 50. Et je vais reprendre aussi un auteur d'une palestinien israélien. Israélien et palestinien, vous verrez, tout à l'heure, j'en parlerai, de cette génération de 1950. C'est-à-dire la génération juste après la naissance de l'État d'Israël. Alors, il a publié en français, « Supplément au passé », c'est le titre de son recueil. C'est au Centre international de la poésie de Marseille, CIPM Marseille, en 2009. Hein. Alors là aussi, vous pouvez le voir sur le site du Centre international de poésie de Marseille. Et « Comme un rêve à midi », ça, c'est aux excellentes éditions Almanar, « Comme un rêve à midi », de Ghassan Gzat Khtan, qui est toujours disponible, d'ailleurs ça a été publié en 2011. Bon, je vais vous lire donc Les barbares, mes intimes, de Ghassan Gzat Khtan, difficile à dire. Alors il y a une préface, est-ce que j'ai le temps de la lire? Malheureusement, de Abdelatif Labi, hein. En lisant et relisant Ghassan Gzat Khtan, je ne peux pas m'empêcher de penser à Gaston Bachelard. Qui mieux que lui a réussi à mettre les mots adéquats sur l'immense créativité de la rêverie, l'état de poésie par excellence. Mais il y a rêverie et rêverie. Celle qui s'empare de notre ami palestinien ne l'éloigne pas au point de le couper de son objet, à savoir ce qu'il a provoqué, telle ou telle facette du drame de son peuple, tel ou tel forfait commis par les barbares, ses intimes, qu'il ne lâche pas d'un pouce, qu'il se plaît à soigner, pour qu'il puisse se présenter entier devant le tribunal de l'histoire et être jugé en conséquence. Rêve inatteignable, et le poème qui pourrait en rendre compte à ses limites. Gzat Khtan en a pleine conscience quand il écrit « Souvent, le poème poursuit ses imperfections. L'imperfection devient une partie de sa vie, mais il continue à chercher comment combler ce vide à l'image d'une main qui frappe à une porte dans le désert, une seule main sans corps et une seule porte sans maison. » Abdelatif Labi. Il a écrit ça à Créteil en mars 2025. Voilà. Question de Ghassan Gzat Khtan. Comment pourrais-je voler la rose unique de mon compagnon, celle-là qu'il a cherchée longtemps et n'a pas trouvée? Comment pourrais-je te proposer mon cœur au milieu de toute cette corruption? Comment pourrais-je faire cela avec tout ce qui arrive? Les choses magnifiques tarde à frapper à nos fenêtres, arrive trop tard le plus souvent, quand les bras nous en tombent déjà, que nos yeux ont perdu leur éclat, et que nos cœurs, que plus rien n'agite, sont remplis d'amertume. Personne ne tient à survivre. Personne ne tient à survivre. Arrête-toi un peu de parler, de mâcher, étends l'oreille aux voix de l'exode, au tumulte des partants. Tu n'as pas besoin de regarder par la fenêtre les rues qui sont en train de quitter, les maisons abandonnées, portails et fenêtres ouverts, ils n'ont pas peur des cambrioleurs. Les pauvres d'entre ces derniers parlent eux aussi. Ils n'ont pas peur des hyènes dans les campagnes qu'ils vont traverser. Les hyènes sont parties sur leur chemin vers le nord. Elles aussi ont escaladé les pentes de sel. Ils ne redoutent pas les filous et les petits pirates, les frêles embarcations au bord desquelles ils vont à peu près tous traverser la mer, y compris les malfaiteurs, contre lesquels tu nous as prévenus, les vendeurs douteux, les prétentieux et les fiers à bras, les proxénètes aux dents anores, mal agencées, les ivrognes, les désœuvrés des cafés. Et tout ce qui a permis à ce lieu d'être une ville où l'on puisse vivre. Tu n'as pas besoin de regarder par la fenêtre pour percevoir le vide qui les suit, la poussière qui les enveloppe et le chant en sourdine, joyeux, qui émane de la voix de la femme conduisant une bicyclette bleue. Si seulement tu t'arrêtais de parler et de mâcher. Le chant des Arabes coriaces. Les Arabes coriaces, avec leurs yeux brillants et leurs femmes discrètes, leurs doigts, qui roulent la parole et la lancent sur le corps des femmes du Nord, y imprimant des bleus et des signes comme autant de talismans difficiles à déchiffrer, ou dont le dessin reste mystérieux, leurs doigts qui les aident à s'exprimer, rire et pleurer, leurs mains qui ouvrent à la parole ses chemins. Voici leurs voix se mêlant aux forêts, faisant battre leurs ailes trempées au-dessus des gens assis dans les places de villages isolés ou des hommes retraités, curieusement habillés de noir, et des vieilles femmes font le signe de la croix chaque fois qu'un noyé est ramené à terre, ou les survivants d'entre les musulmans continuent à sermonner leur progéniture et inciter ce que leur corps n'a pas aidé, femmes et enfants pour la plupart, à réciter la profession de foi. Voilà, les Arabes frustent. Ils s'ouvrent dans le désert, telle une aube caniculaire, alors qu'un sanglot gigantesque submerge le monde. Voilà. Nous pouvons dire que ce sanglot gigantesque, effectivement, il submerge le monde quand on contemple le monde tel que nous sommes obligés de le contempler aujourd'hui. Alors, vous avez bien compris, bien sûr, que aussi bien les Palestiniens que les Israéliens, et dans le peu de temps qui nous reste, les 6 minutes qui nous restent, je vais simplement les évoquer pour vraiment vous faire bien comprendre que le but de tous ces poètes, le seul but de tous ces poètes, c'est bien entendu la paix, la paix, la paix. Rétablir la paix de tous les peuples, la paix de tous les hommes, et la paix immédiate, bien entendu, que personne ne peut être indifférent à la mort d'innocents par les bombardements, à la mort d'innocents par les pogroms. Personne, personne digne d'humanité ne peut être indifférent à cela. Alors je vais associer à ces poètes palestiniens. Mais encore une fois, je reviendrai bien entendu sur Ghassan Zatkhtan et sur d'autres poètes palestiniens. Et merci Abdelatif Lahabi d'avoir eu cette extraordinaire intelligence, vraiment, de traduire ces poèmes. Et quand on voit le ton de ces poèmes, vraiment, ce qu'il y a, il n'y a, ce n'est pas une poésie, comment dirais-je, une poésie, de cette poésie frustre, justement, militante pour être militante. Non, c'est de la grande, de la très grande poésie. Voilà. Alors, je voudrais parler peut-être très vite de Naïm Haredi. Naïm Haredi, qui est un poète druze. Il est né en 1950, dans cette génération de 1950. Il est né dans un village druze de Magar, c'est en Galilée. Et Naïm Haredi, il appartient donc à cette génération des années 50, dont la vocation est de vouloir conjuguer identité et culture commune. Alors il a une œuvre littéraire importante qui s'exprime aussi bien en arabe qu'en hébreu, et il est riche de plusieurs recueils et un roman. Alors cette œuvre de Naïm Haredi, elle a été couronnée à plusieurs reprises par d'importants prix littéraires. Traduction de littérature arabe en hébreu, auteur d'anthologie, choix de poète d'Adonis, par exemple, Adonis. Et il est aussi l'auteur d'essais critiques sur la littérature arabe d'Israël et d'une thèse de doctorat sur le poète hébraïque Uri Zvid Greenberg. Et il a enseigné la littérature à l'université de Haïfa avant d'être ambassadeur d'Israël en Norvège. Il est mort en 2015 et fait terrible quand même, hein. Il a été ambassadeur donc en Norvège de 2012 à 2014. Naïm Haredi, le poète Naïm Haredi, grand ami de Michel et Carélial, il a fait venir à Montpellier. Et bon, j'ai eu l'occasion, bien entendu, de présenter son œuvre très souvent. Alors, le fils, vous entendez, écoutez ça. Le fils de Naïm Haredi, Rabia Haredi, qui avait 43 ans, a été décapité lors de massacres terroristes, dans la ville druze de Magdar, dont je parlais, c'est-à-dire au nord d'Israël, en juin 2024. On a retrouvé sa tête, vous rendez compte. Hein. Voilà. Les horreurs, quand même, de cette guerre fratricide. Naïm Haredi, poème de Jérusalem. Elle était à Jérusalem, elle voulait voir le mur occidental, elle se vantait de ne pas être religieuse. Et dans son billet coincé entre les pierres, elle avait écrit des choses sur moi et sur elle, et sur Jérusalem. J'étais aussi à Jérusalem, au mur occidental, je ne suis pas religieux. La seule prière de tous mes poèmes, c'est de sauver ma fierté d'homme, mon visage d'homme, mon amour. Je n'ai pas de mur à Jérusalem. Je n'ai pas de mosquée à Jérusalem, ni d'église. Jérusalem est pour moi la plus belle des villes, la plus belle des femmes. Jérusalem est la mélodie croisée de la prière et du poème, où est toujours écrit « Je reviens de suite à Jérusalem ». L'amour de Jérusalem. J'ai l'amour de Jérusalem. Les maisons de pierre sont celles de mon mur oriental. Que de toi en tuiles si égayes comme ma vie sur terre, entre la ville et mon village. J'ai l'amour de Jérusalem, pour ses colombes différentes d'ailleurs. Elles dansent sur les cordes à linge, et les hôtels de Jérusalem les hébergent gratuitement. Quand je suis à Jérusalem, je lui donne l'amour que seules les colombes de Jérusalem peuvent comprendre le sens des mots. Amour et Jérusalem. Et nombreux les peuples accourront, et je serai parmi eux, un homme qui porte aux hommes le poème, et de leurs épées ils feront des charrues, tantôt portant le goupillon, tantôt le serpillon, et parmi eux je serai un homme qui porte aux hommes le poème. Les ennemis sont parfois des amis, comme il n'est cheval que de bons cavaliers, et soldats morts à la guerre ne se relèveront jamais. Ils trouveront la paix dans une terrible mort. Vivants ou morts, les poètes restent des poètes, et parmi eux je serai un homme qui porte aux hommes le poème. Voilà. Nous allons terminer là-dessus. Donc, Naïm Haredi, cet extrait, ce sont des textes choisis et traduits de l'hébreu par Michel Ekar Elial, publié aux éditions Levant, L-E-V-A-N-T. Voilà. Et vous trouverez de quoi vous procurer ce recueil dans le site donc Levant, le site des éditions Levant. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adisat.